Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez un instant sur la 1337 et sur Planète Info. Il est 19h, l'heure de faire un point sur l'actualité de ce mercredi 10 juillet 2024. Avec à la une ce soir, bien sûr, le Marine Le Pen qui a été réélue présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés du parti d'extrême droite ont fait leur entrée au Palais Bourbon, tandis que Jordan Bardella leur a demandé d'être parfaitement irréprochable. Il a aussi promis un examen de conscience, vous le verrez dans un instant. Nous partirons à l'international dans ce journal. L'armée israélienne a largué des tracts sur la ville de Gaza, appelant toutes les personnes dans cette localité du nord du territoire palestinien assiégé à partir vers le sud. Puis nous parlerons d'Hervé Renard, le sélectionneur des Bleus. L'équipe féminine qui a affirmé à l'AFP avoir des ambitions et vouloir aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous jetterons un coup d'œil à votre météo, nouvelle journée orageuse. Et puis dans notre reportage du jour, nous partirons en mer Baltique où vous le verrez. Eh bien, cette mer est un lieu d'expérience pour tenter d'enrayer le réchauffement des océans. Marine Le Pen a été élue présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale ce matin. Les députés du parti d'extrême droite ont fait leur entrée au Palais Bourbon, tandis que Jordan Bardella leur a demandé d'être parfaitement irréprochable. Il a aussi promis un examen de conscience, Planète Info Reportage. Arrivé en tête des législatives avec 190 à 195 élus, le nouveau Front Populaire doit-il former un gouvernement, ce qu'il appelle de ses voeux. Une large partie de la Macronie s'y refuse et sort la calculatrice au Palais Bourbon. On est de plus de 160 aujourd'hui et j'entends des députés LR divers droites, mais même divers gauches qui seraient prêts à nous rejoindre, ce qui veut dire qu'on pourrait numériquement dépasser le bloc de gauche, a affirmé Aurore Berger sur France 2. Comme la ministre de l'égalité homme-femme réélue députée dimanche, les responsables macronistes multiplient les efforts pour élargir le bloc central. Le chef sortant des députés Renaissance, Sylvain Maillard, a d'ailleurs convoqué une réunion de groupe mercredi pour regarder quels sont les députés susceptibles de les rallier. Comme depuis 2022, le camp présidentiel regarde essentiellement vers la droite pour trouver des alliés. Il peut y avoir un premier ministre de droite, ça ne me gênerait en rien, a ainsi déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur CNews et Europe 1. Une option approuvée par de nombreux députés qui veulent éviter à tout prix un gouvernement comprenant les membres de la France Insoumise et les LFI qui promettent de censurer s'ils arrivaient au pouvoir. Mardi soir, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe avait déjà appelé la signature d'un accord technique avec les Républicains en vue d'avancer et de gérer les affaires du pays pendant un mois. Après avoir été inflexible sur l'hypothèse d'une coalition, certains responsables de la droite tentent de peu à peu d'ouvrir les idées, à l'image du président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand et de l'ancien député LR Olivier Marleix. Ces derniers ont plaidé pour la nomination d'un Premier ministre issu de leur camp qui prendrait la tête d'un gouvernement de rassemblement. Planète Info reportage. Un imam sénégalais de 37 ans a été interpellé ce mercredi matin dans l'Aube. En vue de son expulsion en raison de prêches discriminatoires, notamment envers les femmes, ont indiqué Gérald Darmanin et la préfecture de ce département, le qualifiant de radicalisé. Du katma portugais au canot de pêche éthiopien, un millier d'embarcations sont attendues ce vendredi aux fêtes maritimes de Brest, exposition universelle de la mer, qui revient après 8 ans d'absence dans cette immense flottille. La participation d'un voilier russe annulé et in extremis suscite notamment la controverse. Nous partons à l'international à présent. L'armée israélienne a largué des tracts sur la ville de Gaza, appelant toutes les personnes dans cette localité du nord du territoire palestinien assiégé à partir vers le sud en empruntant des corridors de sécurité. Planète Info reportage. Au 10e mois de cette guerre dévastatrice et après des mois d'efforts restés vains, de nouvelles discussions sont prévues au Qatar pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu, une libération d'otages enlevée lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël qui a déclenché les hostilités le 7 octobre. Israël a juré de détruire le Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007 et riposté à l'attaque par une offensive militaire aérienne puis terrestre de grande envergure dans le petit territoire palestinien, assiégeant les quelques 2,4 millions d'habitants. Après avoir affirmé en janvier le démantèlement du commandement du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, principalement dans la ville éponyme, l'armée a repris ces derniers jours ses opérations terrestres dans cette région avec l'appui de l'aviation et de l'artillerie. Mercredi, elle a largué des tracts sur Gaza, appelant toutes les personnes à partir vers le sud. À toutes les personnes dans la ville de Gaza, des corridors de sécurité vous permettent de vous rendre rapidement sans inspection vers des abris à Deir el-Balah ou Al-Zera, indique la tête dans un tract vu par une correspondante de l'AFP. La ville de Gaza reste une zone de combat dangereuse, y est-il écrit. C'est la 12e fois qu'on est déplacé. Combien de fois faut-il encore endurer? 1000 fois? Où allons-nous finir? Je n'ai plus d'énergie, je ne peux plus, a lancé Wamnir Al-Jamal, qui a fui un quartier de Gaza avec sa famille. La directrice des communications de l'OWA, Juliette Thomas, a dit qu'il était difficile de savoir si les personnes s'étaient réfugiées dans ce siège de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Des dizaines de terroristes ont été tués, des tunnels souterrains détruits à Choubaïa, dans l'est de la ville de Gaza, d'après l'armée. Le Croissant Rouge palestinien a affirmé que dans ses ambulances ne pouvaient atteindre les victimes de Gaza en raison de l'intensité des bombardements. Le 27 juin, l'armée a lancé une opération terrestre sur Choubaïa avant de l'étendre à d'autres quartiers où des milliers d'habitants ont déjà fui, dès les premiers appels de l'armée à évacuer certains secteurs. Nous restons à l'international et les pays membres de l'OTAN ont annoncé mercredi avoir commencé à transférer des avions de combat F-16 à l'Ukraine et leurs dirigeants à Washington, tentant de surmonter les incertitudes politiques qui entourent ce sommet historique. Ces avions en provenance du Danemark et des Pays-Bas voleront dans le ciel ukrainien cet été pour s'assurer que l'Ukraine puisse continuer à se défendre efficacement contre l'agression russe, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Taïwan a indiqué mercredi avoir détecté autour de l'île 37 aéronefs militaires chinois qui se dirigeaient vers le Pacifique occidental pour rejoindre un porte-avions chinois dans le cadre d'exercices militaires. Microsoft a abandonné son siège d'observateur au conseil d'administration d'OpenAI, le développeur de ChatGPT, a indiqué le gérant américain de l'information dans une lettre consultée par l'AFP ce mercredi, au moment où les régulateurs européens et américains accentuent leur surveillance du marché de l'intelligence artificielle. On passe au sport et Hervé Renard, le sélectionneur des Bleus. L'équipe féminine a affirmé à l'AFP avoir des ambitions de vouloir aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques de Paris 2024, estimant avoir un groupe plus fort que lors du Mondial, tout en appelant ses joueuses à avoir ce petit supplément d'âme et à mettre plus d'impact. La Kenyane Brigid Kosgei, quant à elle, vice-championne olympique du marathon de Tokyo, a déclaré forfait pour les Jeux de Paris 2024 du 26 juillet au 11 août en raison de ses blessures, a annoncé ce mercredi les responsables de la sélection kényane. Et puis l'échec cuisant des Bleus et leur parcours peu glorieux à l'Euro 2024 ne remettent pas en cause l'avenir immédiat du sélectionneur Didier Deschamps, soutenu par la Fédération française de football, mais les contours du groupe France pourraient sensiblement évoluer en vue du Mondial 2026, date à laquelle Didier Deschamps devrait passer la relève, selon les informations de l'AFP. Et puis, le Real Madrid présentera officiellement son nouvel attaquant Kylian Mbappé, qui portera la saison prochaine le numéro 9, mardi prochain à midi au stade de Santiago Bernabéu, a annoncé le club madrilène ce mercredi. L'ex-attaquant du Paris Saint-Germain, qui a été éliminé mardi avec la France en demi-finale de l'Euro par l'Espagne 2-1, après une compétition décevante sur le point de vue individuel, sera donc reçu auparavant par le président madrilène Florentino Pérez pour le protocole de signature de son contrat de 5 ans, précise entre autres le Real Madrid. Vous écoutez la 1337 et Planète Info, 19h09, on poursuit avec la météo. Et pour votre météo, une perturbation atlantique apporte des plus faibles et modérés sur la Bretagne et les pays de la Loire le matin. En soirée et la nuit suivante, ces pluies s'étendent vers l'est en prenant un caractère orageux du Val-de-Loire au bassin et parisien. Les maximales, elles varient de 18 à 23 degrés sur les régions bordant la Manche, 24 à 28 sur le reste de la moitié nord de l'Aquitaine, entre 28 et 33 des Alpes de l'Occitanie et en Corse, et entre 32 et 36 sur le sud-est, localement 37 ou 38 en Provence. Voilà Pour votre météo, qui est bien sûr à retrouver sur notre site internet la1337.com. Et je vous le disais donc dans les titres, nous partons dans notre reportage du jour en mer Baltique où vous allez le voir. Cette mer est le lieu d'expérience pour tenter d'enrayer le réchauffement des océans et surtout enrayer le réchauffement climatique et mieux comprendre comment pouvoir agir. C'est un reportage d'Arthur Bex avec les informations de l'AFP pour Planète Info et la 1337. Dans l'archipel finlandais, les scientifiques qui étudient le réchauffement climatique de la mer Baltique ont mis en évidence l'impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes côtiers. Une avancée pour espérer préserver les océans. Nous sommes en première ligne devant ces changements. La mer Baltique se réchauffe en moyenne deux fois plus vite que les océans du monde entier, explique le professeur Alf Norko, qui dirige la plus grande station de recherche marine de la mer Baltique, Tavarmin, au bord de l'eau, dans la ville finlandaise de Hanko. Avec ses eaux peu profondes et saumâtres en raison de l'apport limité en eau salée que permettent les minces détroits du Danemark, la mer Baltique, qui borde la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne et la Russie, abrite des écosystèmes uniques extrêmement sensibles aux modifications de l'environnement et du climat. Les sternes, des hirondelles de mer typiques des milieux côtiers, parlent au-dessus de l'archipel qui entoure la station vieille de plus de 120 ans, un paysage commun le long des 1100 km de côte finlandaise où se situent plus de 81 000 îles. Les mesures effectuées à la station depuis 1926 montrent que la température moyenne de la mer a augmenté de 2% au cours des 30 dernières années. La mer Baltique est une petite baignoire comparée aux océans du monde entier. Nous voyons les premiers effets de l'augmentation de la température, explique Norman Gebler, chercheur doctorant spécialisé dans les vagues de chaleur marine notamment. Vêtue de cuissardes et de lunettes de soleil, Margaret Williamson, chercheuse doctorante, s'aventure dans une roselière verdoyante, balayée par la brise estivale. Elle y prélève régulièrement des échantillons de tiges, de racines et de sol, afin de mesurer le niveau de dioxyde de carbone stocké dans les roseaux. La mer Baltique est vraiment importante pour comprendre les effets du changement climatique à l'échelle mondiale, souligne Madame Williamson, qui participe à un projet de recherche conjoint entre les universités d'Helsinki, de Stockholm sur les liens entre environnement côtier et changement climatique. Les zones côtières du globe, telles que les archipels de la mer Baltique, les récifs coralliens, les estuaires ou encore les forêts de mangroves, sont des réserves majeures pour la biodiversité et constituent des habitats dynamiques et vitaux pour les poissons et d'autres espèces marines. Les océans et les écosystèmes côtiers ont absorbé plus de 90% de la chaleur associée au changement climatique induit par l'activité humaine et ont capturé les gaz à effet de serre. Mais leur capacité d'absorption en tant que puits de carbone reste étonnamment inexplorée et souvent hors des politiques climatiques nationales et internationales, note M. Corco. Si l'on a beaucoup insisté sur le rôle de puits de carbone des forêts terrestres, nos côtes et nos océans ont été ignorés, déplore le chercheur. Jusqu'à présent, les mers ont amorti une grande partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais la question est de savoir jusqu'où ces océans peuvent supporter tous ces facteurs de perturbation, poursuit-il. Fait inquiétant, les recherches menées à la station finlandaise montrent que les écosystèmes côtiers de la mer Baltique pourraient, à un horizon de temps non défini, émettre des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou le méthane, au lieu d'absorber, en raison de l'augmentation des températures et des dégradations de l'environnement. L'état de la mer Baltique se dégrade depuis des années à cause de l'eutrophisation, un apport excessif de nutriments causé par le ruissellement des pratiques agricoles et forestières conventionnelles et par l'afflux d'eau usée non traitée. Nous partons de l'hypothèse qu'un système côtier est un puits de carbone net, tandis qu'un écosystème dégradé est une source nette de carbone, explique M. Morco. Avant d'ajouter, notre plus grande préoccupation est qu'un puits de carbone efficace puisse devenir une source de carbone. Pour éviter une telle situation, il est nécessaire de renforcer et d'intensifier les efforts de protection et de restauration des écosystèmes marins. Pointant du doigt un focus vénitieux vert foncé, visible sous la surface de l'eau, une algue menacée par l'eutrophisation est révélatrice d'un bon état écologique. Monsieur Norco compare cette macro-algue à une forêt ancienne, car elle peut vivre jusqu'à 30 ans dans un écosystème côtier en bonne santé. Une fois que le fructus vésiculeux a abordé et absorbé le carbone, il le stocke pendant une longue période. C'est la raison pour laquelle un système sain est plus résistant au changement et donc peut être préservé. Voilà pour ce reportage qui est bien sûr comme tous les autres à retrouver en intégralité sur notre site internet la1337.com et cette partie du reportage est à retrouver bien sûr dans notre podcast dès 19h sur notre site internet planeteinfo.wixsite.com/webradio. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve demain dès 19h. Très belle soirée à toutes et tous. À partir de 20h, retrouvez votre émission BO Rétro suivie de la playlist parlante de Jérémy de 21h à minuit. Très belle soirée à toutes et tous.